L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Échos de la solidarité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Azemar pour l'ACAT. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être vous pourriez nous présenter rapidement cette ONG.
Oui, alors, bonjour. L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une ONG, une chrétienne, œcuménique, de défense des droits de l'homme, qui a été créée en 1974 par deux femmes qui ont été bouleversées par l'appel d'un pasteur italien qui s'appelle Tullio Vinet, qui revenait du Vietnam comme observateur et qui a été absolument horrifié par la question de la torture. À l'époque, il y avait le fameux problème des prisonniers qui étaient prisonniers vietnamiens, qui étaient emprisonnés dans des cages. Et donc, il a été horrifié. Il est rentré en France en disant « c'est pas possible de se déclarer chrétien, d'aller dans les églises, d'aller au culte, d'aller à la messe et d'être indifférent à cette question de la torture. » Et donc deux femmes se sont levées, mobilisées et ont décidé de créer cette association pour lutter et sensibiliser les églises chrétiennes contre la torture.
D'accord. Alors, quand on pense à l'abolition de la torture, la défense des droits humains, on pense tout de suite à Amnesty International. Alors, quelle est la différenciation en termes de notoriété entre l'ACAT et cette autre ONG ?
Alors, Amnesty est beaucoup plus connue que l'ACAT. Et pourtant, nous menons absolument le même combat. Alors, c'est vrai que souvent, les gens s'interrogent et nous disent « Pourquoi est-ce que vous voulez créer une association ou militer dans une association alors qu'il existe Amnesty ?» Et nous, ce qu'on répond, c'est que en fait, on s'inscrit vraiment dans le droit fil de ces chrétiens qui ont été scandalisés et ont décidé d'agir et de se mobiliser. Et notre objectif, c'est d'être dans une dimension à la fois verticale, parce que c'est vrai que nous croyons, nous chrétiens, dans la force de la prière, dans cette force agissante, mais aussi cette dimension horizontale qui fait que dans l'union, à travers le réseau des églises, que ce soit des églises catholiques, protestantes ou orthodoxes, on est en mesure de mobiliser un très très grand nombre de personnes en suscitant une indignation, des prises de position et des actions.
D'accord. Et alors, cette démarche pour les sceptiques ne risque-t-elle pas de paraître insuffisante pour lutter contre les injustices ?
Alors, c'est vrai que on pourrait facilement brocarder une association qui se contenterait de se réunir pour des veillées ou des réunions de prière. Mais déjà, cette prière, c'est une action. Bien entendu, elle nous oblige. Le prolongement normal, c'est l'action. Il ne faut pas oublier que dans le sigle ACAT, il y a tout d'abord « action des chrétiens ». Et ces actions, elles se déroulent à partir d'un tas d'événements ou à partir d'actions qui sont la signature de pétitions, la diffusion d'appels du mois, d'appels urgents. Alors, par exemple, nous avons chaque mois un appel qui va cibler une personnalité qui est parfois en prison ou torturée ou qui a disparu. Il y a également l'appel urgent lorsque quelqu'un est sur le point d'avoir son intégrité physique malmenée ou compromise. Il y a une mobilisation qui se fait pour pouvoir voilà, interpellé. Alors, par exemple, on a eu le cas d'un opposant marocain qui s'appelle, j'essaye de retrouver son nom, Mati Mandjab ou Mandjeb. Il faudrait que je le retrouve. Voilà, je pense que c'est ça. Et qui a été... qui a fait l'objet donc d'une mobilisation de notre part. Et grâce un petit peu à ce que nous avons su faire, il a pu être libéré au mois de mars.
D'accord. Voilà. Alors, d'un point de vue tout à fait pragmatique et objectif, est-ce que vous pensez que ces actions sont vraiment efficaces ?
Oui, puisque nous avons tous les mois tous les mois, nous arrivons à avoir de bonnes nouvelles concernant certaines personnes pour lesquelles nous battons. Voilà, donc, sous forme, par exemple, nous arrivons je vais essayer de retrouver un petit peu mes notes. En 2020, par exemple, nous avions organisé une nuit des veilleurs. C'est un événement pour lequel nous mobilisons chaque année au mois de juin. Nous étions mobilisés pour 6 victimes pour lesquelles nous avions appelé à prier à nous mobiliser. Ce sont des acteurs et des journalistes égyptiens qui avaient été emprisonnés parce qu'ils avaient osé critiquer le pouvoir et qui ont pu être libérés le 24 décembre de cette année. Également, nous nous étions mobilisés pour des journalistes d'un média indépendant qui s'appelle Iwaku et qui sont des journalistes du Burundi et qui ont pu être également libérés après 430 jours de prison. Oui, l'historien dont je parlais, l'historien marocain et opposant marocain, s'appelle Mahati Mandjib. Il a été arrêté en décembre 2020, poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État, et il a été libéré. On a également donc des actions qui se font, notre cœur de cible, c'est la torture, mais on a également une campagne contre la peine de mort et nous battons pour essayer de convaincre les pays de renoncer à cette pratique et nous avons eu, malgré une année qui s'est terminée malheureusement par une campagne d'exécution fédérale aux États-Unis due à une espèce de frénésie de Trump, nous avons enregistré quand même des nouvelles encourageantes avec l'abolition de la peine de mort dans deux États américains qui sont la Virginie et le Colorado, mais également dans deux autres États qui sont le Tchad et le Kazakhstan. Donc on a petit à petit... des pays qui viennent grossir le rang des États qui ont aboli la peine de mort. Et sur cette question de la peine de mort, nous intervenons dans les lycées, les établissements scolaires, ceux qui nous le demandent en tout cas, pour pouvoir sensibiliser les jeunes à cette question de la peine de mort.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que les actions de la CAT se manifestent également par de la mobilisation citoyenne ?
Oui, alors, c'est quelque chose qui est parfois pas toujours évident, puisque on se rend compte que sur des sujets comme la peine de mort, il y a encore du travail. On s'est rendu compte, par exemple, qu'en 2015, à la suite des attentats, il devenait pas totalement anormal de pencher pour la peine de mort, de même que la torture devenait quelque chose... qui finalement pouvait devenir acceptable dans certaines conditions. Donc il y a, au niveau des actions citoyennes, il y a encore beaucoup de mobilisation à rechercher, mais petit à petit, des événements qui nous permettent de penser que les mentalités évoluent.
D'accord, merci pour ces informations Pierre. Alors tout de suite, avant de continuer sur une deuxième partie, nous allons faire une petite pause musicale.
1, 2, 1, 2, 3.
The day I walked down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Brides the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get.
Day I walked down the street I used to wander. Yeah, scratched my head and lit my cigarette. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Day I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?
C'était How Lucky de Erdweil et John Prine. Alors on est de retour avec Pierre pour notre seconde partie d'émission. Alors j'ai une petite question à vous poser. La CAD se mobilise beaucoup à l'international, mais n'y a-t-il pas des sujets à mobilisation dans notre pays, en France ?
Oui, alors c'est vrai que lorsque on se compare avec l'international, on a tendance à dire que la France, patrie des droits de l'homme, est exemplaire et irréprochable. Pourtant, on a beaucoup de choses dans lesquelles, beaucoup de domaines dans lesquels on doit progresser, au premier rang desquels la situation dans nos prisons. Il faut savoir que la France se caractérise par une surpopulation carcérale, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais, 20% des cellules qui sont occupées par deux personnes, que dans nos prisons, on a un à deux suicides tous les deux ou trois jours, et que cette surpopulation carcérale se traduit, entraîne des conditions de vie inhumaines et dégradantes contre lesquelles nous nous battons. La Cour européenne des droits de l'homme condamne régulièrement la France pour la situation dans ses prisons et aussi pour sa politique du tout carcéral, hein, où on est dans la course à l'échalote. On est persuadé que la seule réponse à apporter à la délinquance, c'est de construire des places de prison. Et la CAT condamne cette politique. Elle milite pour d'autres formes de justice, et notamment pour la justice restaurative, qui est une justice qui vise, à travers un dialogue entre les représentants des victimes et les agresseurs ou infracteurs, qui vise à restaurer et à réparer le lien social, à restaurer la victime dans sa dignité et à faciliter la réinsertion des délinquants dans notre vie. Alors, sur le problème des prisons, il y a réellement une action sur laquelle la CAT se bat. La CAT s'est aussi à développer une expertise dans un domaine dont on a beaucoup entendu parler à l'occasion des manifestations des années 2018-2019. C'est toute la question de la politique du maintien de l'ordre et de l'utilisation d'armes de l'utiliser par la police comme les lanceurs de balles de défense ou les grenades de désencerclement. Donc la CAT a mené tout un travail qui a été unanimement reconnu pour essayer d'amener la police à exercer cette politique du maintien de l'ordre dans un meilleur respect, dans un plus grand sens des responsabilités et avec le moins de dégâts possibles. Également, on a au mois de novembre dernier obtenu une victoire en matière de politique migratoire. Il est de notoriété publique que les migrants, lorsqu'ils veulent obtenir un rendez-vous en préfecture avec l'OFI, doivent se battre pendant des mois et des mois pour obtenir un rendez-vous. Et nous avons pu obtenir par un jugement du juge des référés du tribunal administratif de Paris au mois de novembre, une décision concernant un référé liberté qui avait été déposé par 23 requérants individuels, 12 associations, pour faire constater que le délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous constituait une violation grave et manifeste du droit d'asile. On a un combat également qu'on a mené avec succès, c'est à l'issue d'une pétition qui a été adressée à tous les parlementaires, sénateurs, députés, c'est d'obtenir la transparence sur la politique de la France en matière de vente d'armes, notamment aux pays qui étaient engagés ou qui militairement au Yémen, puisqu'il existe un traité sur l'utilisation et le commerce international des armes qui interdit de vendre des armes qui seraient susceptibles d'être utilisées contre des populations civiles, ce qui a été malheureusement le cas au Yémen. Et cette campagne que nous avons menée a permis de stopper, de bloquer des navires qui partaient chargés d'armes à destination du Yémen.
D'accord. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, notamment concernant la restauration du lien social que vous nous expliquiez en début d'intervention. Alors, il y a des associations, notamment dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, qui mettent en place des cellules de conversation jeunes policiers. Est-ce que vous avez eu écho de ce genre d'action ?
Alors, nous en avons eu écho dans le quartier de la Mosson. Il y a des Kawa rencontres.
C'est ça, de Passim.
Voilà, de Passim, qui sont de magnifiques moments très, très, très privilégiés où les représentants de la population, des associations en cause, des milieux, la paroisse protestante de la Margelle y est impliquée, l'église catholique de Saint-Paul notamment, les représentants, il n'y a pas que les représentants des cultes bien entendu, mais des associations comme Passim, tous les intervenants sociaux se rencontrent et ça permet de dialoguer sur des questions tout à fait concrètes comme la sécurité, la propreté des lieux, etc., qui font partie de l'environnement et qui permet un petit peu d'apaiser et de se faire rencontrer les gens, de dialoguer. Alors nous croyons beaucoup à ça, c'est un travail de fond. Alors, qui n'est pas tout à fait dans le cœur de cible, puisque la CAT, c'est plutôt l'action contre la torture, contre la peine de mort, mais tout ce qui peut contribuer à apaiser et à se faire rencontrer les gens pour permettre de sortir un petit peu des idées reçues, des schémas tout faits, des confrontations trop, trop fréquentes, tout ça, c'est évidemment positif et nous avons notre rôle à jouer.
D'accord. Alors, comment la CAT agit-elle au plan local à Montpellier et dans la région ?
Alors, nous nous réunissons, le groupe ACAT se réunit tous les mois, enfin je dirais plutôt se réunissait, puisqu'avec le Covid c'est très très compliqué, donc on essaye de maintenir le lien. Mais au-delà de ces rencontres mensuelles, nous assurons donc la diffusion des appels du mois, hein, ces appels qui sont adressés aux ministres ou aux représentants consulaires ou diplomatiques des pays concernés par la situation des gens pour lesquels nous intervenons. Nous faisons signer des pétitions, nous entretenons une correspondance avec un prisonnier américain qui a été condamné à mort et qui est dans les couloirs de la mort depuis plus de 15 ans, je crois. Nous, bien entendu, à chaque Antigone des associations, nous sommes présents à travers les stands de la Maison du Tiers-Monde, hein, l'MTMSI, sur la place de la Comédie, également lorsque se déroule la quinzaine des solidarités internationales. Nous intervenons localement, je l'ai dit tout à l'heure, dans des établissements scolaire, pour autant que nous ayons le droit de le faire. On ne peut pas le faire dans des établissements publics, puisque nous sommes une association chrétienne, mais parfois des lycées ou des collèges nous demandent néanmoins de pouvoir intervenir, et nous dialoguons avec les élèves sur cette question de la peine de mort. Nous organisons tous les ans, au mois de juin, lors de la journée mondiale de la prière, une nuit des veilleurs pour laquelle nous prions pour les victimes, une dizaine de victimes qui sont choisies un petit peu pour leur engagement et leur côté emblématique. Mais ça nous permet, au-delà de la prière, de pouvoir sensibiliser les églises, leurs responsables, les différents membres engagés de ces églises, pour pouvoir sensibiliser, utiliser le réseau des églises, le réseau des paroisses, de manière à sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes. Et nous sommes également membres d'un groupe qui s'appelle Kéros 34, qui est préoccupé par la question de la paix en Israël et en Palestine. Et nous pensons que là également, cette question du droit des Palestiniens est trop souvent mise sous le boisseau et trop souvent étouffée, et qu'il y a vraiment quelque chose de choquant, surtout pour les chrétiens, pour lesquels la terre dite sainte est trop souvent l'objet de pèlerinage, mais on ne va jamais à la rencontre des Palestiniens, on ne va jamais à leur rencontre, et on n'est jamais à l'écoute de ce qui se passe là-bas, alors qu'ils souffrent terriblement, bien entendu, de la discrimination et des conditions de vie causées par l'occupation de leur territoire par le gouvernement israélien. C'est un sujet toujours très délicat, bien entendu, parce qu'il est souvent mal compris, souvent instrumentalisé. Mais voilà, il faut savoir que la question du Covid a compliqué les droits humains pour les populations de Gaza, pour les populations de Cisjordanie.
Tout à fait. On espère que la crise de la Covid va très vite passer pour que les actions puissent continuer et reprendre aussi, de plus belle. Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de notre deuxième partie et on va enchaîner avec notre troisième partie, mais juste avant, un deuxième interlude musical.
Jusqu'au dernier bateau, on prend les couvrira. Brouiller les contours de nos armes blanches. La nuit, les bruits sourds d'un amour qui danse.
Alors Pierre, pour conclure cette superbe interview, je vais te donner la parole pour parler d'un sujet qu'on n'aurait pas au préalable évoqué et également de nous donner, pourquoi pas, des informations pratiques pour pouvoir suivre l'actualité de la CAT.
Oui, alors effectivement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la CAT, c'est 36 000 adhérents, hein, donc des groupes dans la plupart des grandes villes de France donc qui se réunissent régulièrement, mais c'est aussi un secrétariat national qui est dirigé par une équipe élue avec un comité directeur qui est élu en assemblée générale et donc des salariés, une équipe d'une vingtaine de salariés qui sont des jeunes, qui sont en général formés à toutes les questions de la communication, de l'humanitaire. Ce sont des professionnels de haut niveau et qui nous permet de disposer à la fois d'un site internet qui est tout à fait remarquable, très vivant, avec des vidéos, une chaîne YouTube, des pages Facebook. Une publication qui est une publication bimensuelle, le journal Humain, qui permet de faire le point sur les grandes thématiques ainsi que sur les actions qui sont menées. Voilà, donc 36 000 adhérents d'un côté, maillés sur le territoire, et puis cette équipe qui permet de faire l'animation. Alors, une équipe jeune au secrétariat national à Paris, et puis des adhérents qui sont souvent d'âge mûr, hein, c'est un euphémisme. Et notre souci, c'est de pouvoir faire partager au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, notre exigence, notre indignation contre les situations de torture, contre... ces atteintes insupportables, intolérables à la dignité, à l'intégrité humaine, à la justice. Nous souhaitons sensibiliser les jeunes. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à l'utilisation des moyens, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, de l'information, de la communication, mais aussi au travail qu'on peut faire dans les établissements scolaires. On est à la recherche de moyens d'action. On lance un appel à tous les jeunes qui voudraient nous aider dans ce combat. On a besoin de nous renouveler, il faut qu'on soit plus performant, on a besoin de l'imagination, l'inventivité, la créativité, des nouvelles, de la maîtrise qu'ont les jeunes sur les réseaux sociaux pour pouvoir bâtir un monde plus juste, un monde plus, j'allais dire, bienveillant. Oui, c'est un terme un peu galvaudé, mais on a besoin d'écoute. Et c'est ça qu'on voudrait atteindre comme objectif.
Merci beaucoup, Pierre Azemar, d'avoir été présent aujourd'hui avec nous et d'avoir échangé sur les incroyables actions de la CAT. C'est avec plaisir que je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.